Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Le Vatican lance un signal clair contre le trafic des êtres humains. Le pape François veut encourager la lutte contre les esclavages modernes et le commerce abject des personnes. Des experts se sont réunis à Rome. Nous ferons le point dès le début de ce magazine. Avortement, Europe sociale, formation au ministère presbytéral, préparation au mariage. C'est un agenda chargé qui attend les évêques français à Lourdes. Ils vont se réunir en assemblée plénière sous la présidence de Monseigneur Pontier. Vous entendrez le porte-parole de la conférence épiscopale. Des chrétiens flagellés en Iran pour avoir bu du vin de messe pendant une liturgie. Des ONG accusent Téhéran de violer ses engagements internationaux. Le Saint-Siège, sous l'impulsion du pape François, s'engage de façon décisive dans la lutte contre le trafic d'êtres humains et l'esclavage moderne. Deux jours de travaux sur ce thème se sont achevés dimanche au Vatican. Prostitution, travail forcé, trafic d'organes, autant de problématiques qui ont été abordées durant cette réunion de travail organisée par l'Académie pontificale des sciences sociales en partenariat avec la Fédération mondiale des associations médicales catholiques. Des experts et observateurs venus de différents continents étaient présents aux côtés de religieux, d'organisations et d'institutions qui sur le terrain combattent ce phénomène qui constitue l'un des aspects négatifs de la globalisation. L'objectif était dans un premier temps de faire en quelque sorte un état des lieux, puis d'établir un plan d'action, notamment à travers des propositions. Les participants ont été unanimes sur plusieurs points. Tous souhaitent une plus grande prise de conscience et un engagement majeur de l'Église face au trafic d'êtres humains et réclament une politique de tolérance zéro en ce qui concerne la prostitution qui doit disparaître. Les conclusions de cette rencontre ont été présentées ce lundi aux journalistes. Hélène Destombes a suivi pour nous cette conférence de presse.
49 propositions et un rendez-vous pris pour 2015, c'est concrètement ce qui émerge de cette première réunion préparatoire. Mais ce n'est qu'un début et l'on peut désormais parler de changement radical dans la perception que le Vatican a aujourd'hui de ce phénomène. Une nouvelle rencontre devrait avoir lieu en 2014 sous l'égide des Académies pontificales des sciences et des sciences sociales pour préparer 4 jours de travaux qui auront donc lieu dans 2 ans. Selon le chancelier de l'Académie pontificale des sciences, Monseigneur Marcello Sanchez Sorondo, le Saint-Siège n'avait pas suffisamment pris conscience de la gravité de ce problème avant l'implication personnelle du pape François qui, en juin dernier, a souhaité que la question de la traite des êtres humains soit abordée rapidement. Il entend utiliser à des fins importantes les documents et conclusions de cette première rencontre. C'est ce qu'il a confié à Monseigneur Sanchez Sorondo.
Il m'a dit « Je suis bien content que vous avez organisé ça ». Je vois que vous travaillez bien parce que je veux utiliser tout ce matériel. Je pense que nous devons dire quelque chose avec tout ça. Parce que le pape avait une expérience très forte avec ça, quand il était évêque à Buenos Aires. Alors, il a une perception, pas seulement européenne, mais une perception globale. Et alors ça, c'est important.
Derrière ces nouvelles formes d'esclavage se cachent des situations d'extrême pauvreté, mais pas seulement. Les participants ont notamment pointé du doigt le recours à la drogue par de nombreuses organisations criminelles pour ensuite exploiter hommes, femmes et enfants. Des organisations qui bénéficient trop souvent de manière directe ou indirecte du soutien de multinationales ou d'États, d'où la nécessité de promouvoir une nouvelle forme de gouvernance, de mettre en place un réseau international pour combattre ce trafic aux multiples ramifications. C'est l'une des 49 propositions avancées à l'issue de la rencontre. Monseigneur Sanchez Sorondo.
Faire un réseau de toutes les institutions qui combattent ça et de trouver plus soutien, soit de la part de l'Église officielle, soit de la part des États. Et aussi faire prendre conscience à les États même que la criminalité n'a pas limite. Et que les limites que fait l'État, ce n'est pas suffisant. Alors, Nous avons besoin d'une nouvelle forme de gouvernance aussi pour ça.
Le Saint-Siège espère que ces deux jours de travaux pourront avoir des répercussions sur les décisions des États et des institutions et encourager à la ratification de traités qui protègent hommes, femmes et enfants de toute forme d'exploitation. Des instruments existent déjà, notamment la Convention de Palerme, mais beaucoup reste à faire et l'Église a là un rôle décisif à jouer.
Autre conférence de presse très attendue ce mardi au Vatican, la présentation de la prochaine Assemblée Générale Extraordinaire du Synode des Évêques. Cette Assemblée qui portera sur la famille se tiendra du 5 au 19 octobre 2014. Le cardinal R2, archevêque de Budapest, sera le rapporteur général de ce synode et le théologien et évêque italien Bruno Forte, le secrétaire spécial. Ils s'adresseront aux journalistes mardi à Rome, aux côtés du nouveau secrétaire du synode, Mgr Lorenzo Baldissari, qui a succédé à Mgr Eterovitch. Et en ce début de semaine, c'est l'Académie pontificale des sciences qui organise un congrès intitulé « Pain et cerveau, éducation et pauvreté ». Cette académie a l'habitude des rencontres interdisciplinaires. Cette fois-ci, vu l'étendue de la thématique, elle a choisi de se focaliser sur les progrès accomplis dans le domaine essentiel de l'éducation et de la pauvreté, afin de proposer des solutions pratiques aux problèmes actuels. Le binôme « pain et cerveau » fait référence aux nouvelles technologies qui ont permis d'améliorer la nourriture et l'alimentation et d'aider à surmonter les conséquences de la pauvreté et de la malnutrition sur le développement des processus neurocognitifs et de l'éducation. Les nouvelles connaissances peuvent aider les dirigeants politiques à faire face à une urgence planétaire, car aujourd'hui encore, des millions d'enfants dans le monde sont privés de nourriture et d'éducation, de conditions essentielles pour la dignité humaine. Le groupe de travail de l'Académie des sciences a prévu 4 sessions, respectivement sur la génétique des plantes, le développement du cerveau, la sécurité alimentaire et l'éducation. En 1982, Jean-Paul II s'était dit favorable à l'augmentation des produits alimentaires et à la création de nouvelles espèces végétales, un point de vue que partage l'Académie pontificale des sciences. Aujourd'hui, le défi moral est de mieux utiliser les nouvelles technologies pour offrir à tous une alimentation durable, un bon développement cérébral et une éducation. En France, lourd accueil du 5 au 10 novembre, l'Assemblée plénière d'automne de la Conférence des évêques, la première depuis l'élection du nouveau président, Mgr Georges Pontier, archevêque de Marseille, qui a succédé au cardinal André XXIII, archevêque de Paris. 5 jours de travail, de prières, de réflexion marqués, selon le porte-parole Mgr Bernard Potvin, à la fois par l'élan donné par le pape François aux communautés chrétiennes et par la gravité des questions que pose l'évolution sociétale et économique de la France. Mgr Potvin souligne que la société française est clivée et que beaucoup de repères sont perdus, tant dans l'éthique individuelle que collective. Parmi les principales préoccupations des évêques, les lois sur la fin de vie. Mgr Bernard Potvin.
Vous devinez bien que les évêques de France vivent dans l'élan que donne le pape François. Il y a une très grande communion avec lui. Il leur adresse d'ailleurs un très beau message qui sera rendu public dans quelques jours. Et les enjeux sont ceux d'une société qui est quand même très marquée par la division, notamment en raison de tout ce qui vient de se vivre, quand même en France, avec une crise sociale et morale qui est très profonde. Les évêques veulent aussi s'exprimer beaucoup sur l'Europe. Ils veulent encourager une réflexion sur l'Europe. Ils veulent aussi partager sur la formation des prêtres, qui est vraiment un sujet essentiel pour l'avenir de l'Église. Nous manquons de prêtres et il faut donc une réflexion profonde sur la manière de les former. Il y a d'autres sujets sur lesquels je peux aussi entrer un peu dans le détail. Les chrétiens d'Orient, évidemment, c'est tellement un sujet crucial. On parlera aussi à cette assemblée plénière de questions comme la préparation au mariage, et aussi la dure, très dure réalité sociale de l'avortement. Donc vous voyez que je n'ai même pas tout évoqué dans ma réponse, mais il y a à la fois une grande diversité et beaucoup de gravité dans les sujets, mais aussi beaucoup d'espérance.
À l'issue de la période que la France a vécue et à laquelle vous avez fait allusion, notamment sur les thèmes et des débats de société, quel est l'état de l'Église de France? Quel est son état d'esprit?
L'Église de France est déterminée à continuer à jouer son rôle. Elle a un rôle de prophétisme à jouer. Elle n'a pas manqué de dire ce qu'elle pensait depuis octobre 2011. Elle continuera à le faire sur des sujets qui sont essentiels, comme la fin de vie, les questions de procréation et bien sûr d'autres sujets qui peuvent être sociétaux ou sociaux. Vous avez vu que les évêques de Bretagne viennent de s'exprimer sur la dure réalité sociale également. Je crois que l'Église en France continuera vraiment à vivre cette liberté d'une expression qui est au nom du Christ, au nom de l'amour du plus petit et au nom du respect de la vie, du service de la vie. Et les sujets ne manqueront pas. Il y a une profonde blessure en France suite à cette réforme sociétale. Il ne faut pas la sous-estimer, cette profonde blessure. Et les évêques sont des pasteurs, ils doivent servir l'unité.
Les évêques sont unis pour faire face à ces questions. Bien, il y a évidemment pas d'opposition, mais des courants, des manières de voir ces sujets ou d'en parler avec la société différentes.
Il est légitime que les évêques soient différents entre eux. D'ailleurs, l'ennui viendrait naître de l'uniformité. Mais je puis témoigner qu'au cœur de leurs différences, les évêques cherchent vraiment la communion sur les questions essentielles. C'est bien cela qui compte. Et sur les sujets graves comme les questions sociétales ou sociales, ils sont vraiment unanimes à vouloir défendre la vie et défendre le plus fragile.
Monseigneur Bernard Potvin, porte-parole des évêques de France, interrogé par Olivier Tosserie. À Lourdes, justement, la cité Saint-Pierre est un lieu situé en pleine nature, à l'écart des hôtels et des rues commerciales. C'est un lieu d'hébergement pour les pèlerins qui n'ont pas les moyens de payer un hôtel. La gestion de la structure est en grande partie confiée à des bénévoles. Un lieu trop peu connu et dont nous vous parlons volontiers. La parole donc à Gonzague, ami Audinville, qui dirige la cité Saint-Pierre depuis le début de l'année.
La cité Saint-Pierre est une antenne du Secours catholique, qui fait partie du réseau mondial des Caritas. C'est un centre d'hébergement et d'accueil qui a été voulu par Monseigneur Rodin pour accueillir les personnes les plus pauvres à Lourdes. En effet, Sainte Bernadette avait souhaité dès les origines qu'une place soit réservée aux plus pauvres pour que les plus pauvres aient accès à la grotte et au sanctuaire. Donc la cité Saint-Pierre a été construite sur les hauteurs de Lourdes, dans un cadre assez exceptionnel, parce que c'est vrai qu'on aime bien cette devise que reprenait Monseigneur Rodin, ou cette phrase clé, c'est « rien n'est trop beau pour les pauvres ». Alors quand vous allez à la cité, c'est sûr qu'on est à 1 kilomètre des sanctuaires, donc il faut marcher un petit peu, mais on est dans un cadre de contemplation, dans un cadre très apaisant, et les personnes se sentent chez elles.
Mais Monseigneur Rodin souhaitait un espace sans magasin.
Alors déjà, peut-être qu'on peut dire quand même que Monseigneur Rodin ne souhaitait pas que les magasins ferment. parce que c'est vrai que tout le monde apprécie de repartir avec un petit souvenir. Peut-être que ce qu'il souhaitait, c'est qu'avec des personnes qui ont des conditions matérielles difficiles, donc à qui il offrait l'hébergement, il souhaitait non plus qu'il n'y ait pas trop de tentations, hein, de distractions et de tentations.
La cité Saint-Pierre a aussi une dimension internationale. Elle n'accueille pas que des pèlerins français.
Lourdes est un sanctuaire à portée internationale. Hein. On ne compte plus le nombre de reproductions de la grotte de Lourdes. Donc c'est un message, c'est une image qui attire par tout ce qui a été révélé à Bernadette. Et la cité Saint-Pierre a une réponse à cette dimension en accueillant des pèlerins de tous origines. Par exemple, cette année, un souvenir me vient, c'est nous avons accueilli des personnes qui arrivaient d'Égypte, du Venezuela, une paroisse de Bagdad, donc des chrétiens qui sont dans des pays en guerre. Et voilà, la Syrie, ça a été aussi, par rapport à l'actualité, notamment le positionnement de la France qui a posé question à tous les Français. Donc on a souhaité donner des clés pour comprendre la situation de ce pays et notamment ce que pouvaient vivre nos frères chrétiens.
Est-ce qu'on peut dire que la charité n'a pas de frontières ?
Oui, la charité n'a pas de frontières. Mais peut-être qu'on l'a oublié. L'Église de France a souhaité cette année que les chrétiens se recentrent sur les trois dimensions de la foi. Et notamment, on avait sans doute tendance à avoir oublié la diaconie, le service du frère.
Quels sont vos objectifs pour l'avenir ?
On a quand même comme souhait de favoriser la rencontre de tous. Donc ça veut dire qu'on n'a pas envie que excusez-moi de l'expression, mais qu'il y ait un endroit où l'on parque les pauvres. Alors on a commencé à développer cette idée-là en accueillant des mouvements d'église qui viennent faire des sessions, des réunions, puisqu'on on a des infrastructures qui le permettent, notamment une salle de 1000 places. Voilà, on a vraiment un souhait de ce qu'on appelle mixité sociale, parce que les chrétiens ont besoin de se rencontrer les uns les autres, ont besoin de vivre des moments ensemble, Par exemple, en ce moment, on réfléchit à une proposition de voyage scolaire, hein, avec des classes d'origine différentes, hein, milieu rural, milieu urbain, quartier favorisé, quartier défavorisé, qui pourraient se rencontrer à la Cité Saint-Pierre.
Gonzaga Mio-Dainville, directeur de la Cité Saint-Pierre à Lourdes, interrogé sur place par Giorgia Innocenti. Et toujours en France, une délégation du Saint-Siège participe cette semaine à la 37e conférence générale de l'UNESCO. La délégation est formée d'experts des dicastères de la Curie romaine. Ils participeront activement aux travaux des différentes commissions, ainsi qu'au forum des dirigeants. Le chef de la délégation, Monseigneur Follot, observateur permanent du Saint-Siège à l'UNESCO, célébrera une messe en l'église parisienne Saint-François-Xavier ce mercredi. Samedi, il prononcera un discours de politique générale à la tribune. En Iran, je vous le disais en titre, 4 chrétiens ont été condamnés à 80 coups de fouet pour consommation d'alcool. En fait, ils avaient bu le vin eucharistique pendant une liturgie chrétienne. La sentence, inhumaine et dégradante, a été exécutée rapidement et avec une violence extrême, selon des témoins. L'ONG Christian Solidarity Worldwide dénonce une épouvantable violation de la liberté de culte, d'autant plus grave que Téhéran a adhéré à la Convention internationale sur les droits civils et politiques. Olivier Bonnel.
L'Iran est un pays où la liberté de religion est très limitée et où les chrétiens sont une infime minorité. Selon l'œuvre d'Orient, il y a 6 prêtres et 10 000 catholiques, principalement chaldéens et arméniens, et quelques 90 000 chrétiens d'autres confessions, essentiellement des arméniens apostoliques. Depuis l'instauration de la République islamique, les deux tiers des assyro-chaldéens ont émigré. Ceux qui sont restés appartiennent aux couches les moins aisées et pratiquent une foi sociologique et ethnique. Aucun prêtre étranger ne peut s'installer en Iran, à moins que son arrivée ne corresponde au départ définitif d'un autre prêtre. De nombreux prêtres et religieuses ont été expulsés depuis la Révolution. Malgré sa modestie, l'Église est toujours dans le collimateur des autorités. La minorité religieuse chrétienne est reconnue, mais ses activités ne peuvent se dérouler qu'à l'intérieur des églises. Il est interdit de parler de l'Évangile dans un espace public. Il est également interdit de choisir sa religion librement, de changer de religion ou de professer publiquement ses convictions chrétiennes. De plus, les relations entre les différentes communautés chrétiennes sont parfois conflictuelles. Mais dans ce sombre tableau, les témoignages admirables ne manquent pas. Ainsi, les petits frères de Jésus, qui soignent les malades dans une léproserie aux côtés des sœurs de Saint-Vincent de Paul, font un travail remarquable. Ils sont parvenus à établir des ponts de solidarité.
Les activités humanitaires de l'Église catholique sont généralement appréciées par l'opinion publique, mais l'Église n'est pas une simple ONG philanthropique. Son action n'est pas non plus une stratégie de communication ou de marketing. On ne peut pas comprendre la charité chrétienne sans tenir compte de son lien étroit avec la foi en Jésus-Christ. Un an après la publication du motu proprio de Benoît XVI, Intime Ecclesiae Natura, une cinquantaine d'évêques et délégués responsables des actions caritatives des conférences épiscopales d'Europe se retrouvent jusqu'à mercredi à Trieste, en Italie. La rencontre se déroule sous les auspices du Conseil pontifical Corunum. Le secrétaire général du Conseil des conférences épiscopales d'Europe a souligné que la charité de l'Église était l'expression de la foi en Jésus-Christ et non pas un secteur séparé de la vie de la communauté ecclésiale qui serait confié à des experts. Dieu nous interpelle par le biais des pauvres, de ceux qui sont délaissés, des enfants, des personnes âgées ou des familles dans le besoin. Suivant l'exemple de ses prédécesseurs, le pape François a présidé ce lundi matin dans la basilique Saint-Pierre une concélébration en mémoire des 9 cardinaux et 116 évêques morts depuis le début de l'année. Parmi les cardinaux défunts figurent un Belge, Julien Ries, un Français, Jean Honoré, et un Polonais, Joseph Glimp. Des hommes, a souligné le souverain pontife, qui se sont consacrés à leur vocation et au service de l'Église qu'ils ont aimé comme une épouse. Ces pasteurs zélés sont désormais entre les mains de Dieu. Leur parcours est bien gardé, leur joie et leur souffrances, leurs espoirs et leurs vicissitudes, leur fidélité à l'Évangile et leur passion pour le salut de leurs troupeaux ne seront pas corrompus par la mort. Le pape François a rappelé que l'amour fidèle de Dieu pour chacun d'entre nous nous aide à affronter avec sérénité et courage la vie de tous les jours qui peut être parfois lente et pénible. Même les puissances démoniaques hostiles aux hommes sont impuissantes face à l'union intime d'amour entre Jésus et ceux qui l'accueillent avec foi. Ce lien qui dure après la mort peut être interrompu par le péché, mais Dieu tente sans cesse de le rétablir. L'amour de Dieu est la raison la plus profonde et invincible de la confiance et de l'espérance chrétienne. Même si notre existence est entourée de menaces, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que le Christ nous a obtenu en se donnant totalement. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie, mais je vous invite à nous retrouver également sur internet radiovaticana.va ainsi que sur Facebook Radio Vatican en français.